Martine Gozlan, bonjour.
Bonjour.
Je ne sais pas si c'est utile de vous présenter à nos auditeurs. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef au journal Marianne, mais vous êtes aussi écrivain. Vous avez notamment publié deux livres sur deux personnalités mythiques, deux femmes d'Israël, Anna Senesh d'une part et la poétesse Rachel d'autre part, ce dernier livre l'année dernière. Et puis vous avez publié en mai 2018, c'est-à-dire 70 ans après la création de l'État d'Israël, ce livre « Israël 70 ans » qui témoigne de l'attention toute particulière que vous avez vis-à-vis d'Israël, qui est un des éléments moteurs de votre vie de journaliste. Et la question sur laquelle je voudrais débattre avec vous, c'est pourquoi est-il si difficile de faire passer les arguments, la cause d'Israël aujourd'hui à l'intérieur de notre société?
Alors, d'abord, ce n'est pas tellement la cause d'Israël. Je préfère l'expression ou le mot « les faits ». Les faits sur Israël, la réalité, les réalités d'Israël, les événements qui adviennent au cœur d'Israël ou sur ses frontières. Moi, ce qui m'a toujours surprise, c'est que pourquoi est-ce qu'on parle si difficilement des faits et pourquoi leur substitue-t-on si rapidement les mythes? Or, si vous voulez, ça devrait être le béaba du journalisme, parler des faits, les vérifier, selon la règle du où, quand, qui, comment, enfin tout ce qui est enseigné ou tout ce qui est un réflexe chez les journalistes sur ce qui se déroule en Israël. Or, il semble que cette règle, les faits, leur vérification, n'intéresse absolument pas les médias, les commentateurs. Et parfois même les reporters. Mais je ne veux jeter l'opprobre sur personne. Ce qui me surprend, c'est un discours général qui n'est absolument pas une recension de l'actualité, mais un commentaire indéfini et qui se poursuit, qui se tisse indéfiniment, une broderie. Et c'est une broderie sur une tragédie, sur des tragédies. Alors... si vous voulez qu'on parle des exemples récents, notamment de ce qui s'est passé cet été, pendant notre paisible mois de vacances.
Oui, ce qui s'est passé notamment avec l'Iran, ce qui s'est passé aussi au Liban, ce qui est en train de se passer actuellement au Liban,
oui.
Avec des éléments de gravité. C'est un peu une réflexion sur la signification de ce qu'est le Liban aujourd'hui, de ce qu'est le Hezbollah à l'intérieur du Liban,
oui.
Et de ce que sont les relations du Hezbollah avec l'Iran. Et c'est ce que ces éléments sont bien... comment ces éléments sont-ils tracés aujourd'hui dans les reportages que l'on fait sur ces événements?
Alors, j'ai pas fait la recension de tout ce qui vient de se publier, mais en tout cas ce qui est certain c'est que on parle toujours d'un conflit, là on vient de parler d'un conflit entre le Israël et le Liban. Ça n'est pas exact, c'est un conflit entre Israël et un État dans l'État qui se trouve au sein de l'État libanais, qui se trouve être le Hezbollah et qui est, nous le savons tous, une espèce de succursale de l'Iran. Et c'est donc un conflit entre Israël et l'un de ses proxys, comme on dit aujourd'hui, qui est le proxy iranien qui se trouve être le Hezbollah. Mais on transforme ça en agression ou en affrontement avec le Liban. Ce n'est pas avec le Liban.
Est-ce que les gens sont au courant, par exemple, que Israël et le Liban n'ont pas de conflit territorial et que le Hezbollah, dans toute sa haine contre Israël, finalement, on ne peut pas dire qu'il est là pour récupérer ses terres. On a l'impression que de la façon dont le Hezbollah est présenté, il est là pour récupérer les terres qui lui ont été volées.
Oui, ça passe à l'as. Ça passe à l'as. Il y a une réécriture de l'histoire qui, en quelque sorte, par omission, le retrait d'Israël du sud Liban passe complètement à l'as, comme le fait alors de l'autre côté au sud d'Israël, je veux dire, comme on évoque l'occupation de Gaza. Et ça s'est retrouvé dans un article d'il y a quelques semaines dans un grand quotidien. Et l'occupation de Gaza. Gaza n'est plus occupée. Il y a eu un retrait.
Bien entendu.
Mais tous ces bien entendu qui devraient faire la trame d'une autre, d'une véritable réflexion, d'une véritable analyse, tout cela est gommé. Il y a une sorte d'invisibilité. Oui, il y a une invisibilité du réel. Et j'insiste sur ce fait, sur cette invisibilité du réel, parce qu'elle est d'autant plus fascinante que, là, on parlait du Hezbollah au nord, là, on bascule au sud sur Gaza. Récemment, nous avons publié, à Marianne, un article donc de notre correspondant qui s'appuyait sur précisément les révélations sur la situation intérieure à Gaza. Je constate que la révolte des Gazaouis contre le Hamas, contre leurs dirigeants, est la seule révolte d'un peuple arabe contre ses dirigeants qui n'est pas vraiment droit de citer dans les médias.
Oui. De la même façon, cette façon de représenter le Liban comme un État, comme vous le dites, alors qu'il est militairement sous la coupe du Hezbollah, que le président libanais finalement doit son titre de président au fait que, tout en étant chrétien, il s'est accoquiné depuis plusieurs années avec le Hezbollah et qu'il en est devenu le représentant en quelque sorte. Tout cela est gommé. On a l'impression que le Liban est un pays qui peut agir démocratiquement et de façon totalement indépendante. Il y a là tout de même, alors que le Hezbollah, par ailleurs, pourquoi ne pas le rappeler, la prise en considération du Hezbollah comme une entité terroriste n'est toujours pas à l'ordre du jour.
Non, mais le Hezbollah, rappelons ce que c'est tout de même, hein, il a 130 000 missiles, roquettes à sa disposition. Récemment, ont été mis au jour des centres de fabrication de missiles de précision. C'est un doigt pointé sans arrêt sur Israël. Et en fait, Israël n'a aucun intérêt à une guerre de plus. Enfin, Israël n'a jamais intérêt à une guerre. Tout est fabriqué pour accréditer le concept d'un État belliqueux. Or, c'est un État, en fait, un État en guerre et face à des menaces réelles. Ces menaces ne sont pas prises en compte. Et cela dit, je ne m'exprime pas d'un point de vue idéologique. Encore une fois, c'est la façon dont les faits sont gommés que je trouve extrêmement nocif pour l'exercice de la profession.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a là quelque chose qui est spécifique à la France, ou bien est-ce que c'est une représentation de la situation qui est commune dans d'autres pays?
Écoutez, vous avez quand même une détestation d'Israël qui va grandissant dans de nombre de pays comme la Grande-Bretagne, sur les campus américains. Là on parle de la vie étudiante, hein, sur les campus américains, mais c'est vrai que ça se répand à la vitesse de l'éclair. Je crois pas qu'il y ait une spécificité française. Il y a un phénomène général qui est sous couvert de dénoncer des injustices, Et bon, il y a évidemment des injustices. Moi, je suis de ceux qui ont toujours espéré en une solution non seulement pacifique, bien sûr pacifique, mais une solution juste qui restaure la dignité des peuples et qui satisfasse les aspirations des Palestiniens. Ça fait très longtemps que j'y croyais, mais je poursuis, pardonnez-moi, et cette façon de maquiller les injustices en demande vis-à-vis d'Israël d'une exemplarité qui n'est demandée en fait à aucun autre État. À aucun autre État.
Voilà, ça c'est un élément fondamental, parce que des injustices dans le monde, malheureusement, il y en a partout, et des bien plus graves.
Oui, bien sûr.
Et des bien plus graves. Or, cette finalement, la seule région, le seul endroit où la justice est demandée de façon répétée, puis depuis de nombreuses années, c'est vis-à-vis d'Israël. Est-ce que vous êtes d'accord pour penser que l'antisémitisme dont on voit aujourd'hui la résurgence a comme élément moteur la détestation d'Israël?
Oui, bien sûr qu'Israël représente Israël symbolise cette survie juive. Oui, là, je suis très dure, exaspérante, incompréhensible. Et tout le drame, c'est que il a fallu, en fait, que la victime soit maquillée en bourreau. C'est-à-dire qu'à... Finalement, il y avait les juifs morts, il y a les juifs morts, et puis il y a les juifs forts.
Mais là, nous
on s'éloigne
on s'éloigne sur le fait que le lien entre l'antisémitisme classique et cette détestation d'Israël est un lien complexe. Il faut pas oublier que non plus que ça a été un élément idéologique qui a été mis en place non seulement par les États arabes mais par le monde communiste qui l'a véritablement fabriqué comme une espèce de petit roquet dominé par les Américains et qu'il est entré dans le conflit anti-impérialiste de ce point de vue. Mais alors, comment faire ? Comment se fait-il que la présentation des faits, finalement, soit aussi peu efficace ? Alors, on a dit de nombreuses fois que lorsque les faits vont à l'encontre des opinions, il faut balayer les faits pour garder les opinions. Mais comment se fait-il qu'on ait autant de mal à faire valoir des faits qui sont tout de même assez évidents ?
Oui, enfin, ils sont évidents pour ceux qui se penchent sur la question avec une volonté de trouver et d'identifier les événements. Mais là, on en vient à ce que vous évoquiez, la toile de fond générale de la détestation d'Israël. Et ça, c'est vrai que Israël a pris la place. C'est le juif des nations, on l'a beaucoup dit, mais c'est vrai que c'est une expression qui trouve sa légitimité, malheureusement. Et il y a... nous n'arrivons pas à nous frayer un chemin. Par exemple, j'en ai été témoin au moment des premières dites marches de Gaza, des pseudo-marches pacifiques à partir de mars 2018, c'est ça. Puisque en mars 2019, il y a eu tout un voilà Et eh bien, ces marches ont été présentées comme des marches pacifiques, alors que, bien entendu, elles étaient orchestrées par le Hamas, qu'on sait désormais de l'intérieur même de Gaza qu'il y a eu des pressions sur les familles pour que les familles envoient leurs enfants sur la clôture, précisément pour empêcher que l'on ne voit les agissements des factions armées du Hamas. Donc ça, cela s'est dit ensuite. Et je reviens à ce que nous évoquions sur la révolte des Gazaouis contre le Hamas, contre cette tyrannie religieuse épouvantable. Et cette tyrannie religieuse et cette révolte des Gazaouis, de même que ce qui se passe vraiment en Cisjordanie, est complètement mis sous le boisseau. Ce sont les seuls, les Palestiniens sont le seul peuple arabe dont on ne reconnaît pas la révolte contre ses dirigeants.
Et de la même façon, on parle extrêmement peu de l'idéologie fondamentale du Hamas, telle qu'il y avait dans sa charte, ou bien on la balaye d'un revers de la main en disant mais non, ça c'est une façon de parler, etc. Mais l'article 7 de la charte du Hamas, en fin de compte, il est toujours valable. Est-ce que le fait de voyager en Israël, d'aller voir le pays directement, vous paraît une réponse utile certainement, mais une réponse suffisante? Et est-ce qu'il y a des moyens de favoriser le fact-checking, comme on dit, le contrôle des faits, plutôt que l'appel à l'idéologie?
Eh bien, partout où on le peut, c'est rappeler, redire exactement ce que l'on a vu. Et quelle que soit sa fonction, on peut le raconter à ses collègues de travail, on peut... Mais attention, il ne s'agit pas de dresser un panégyrique, surtout pas, c'est-à-dire ne pas retomber dans une autre idéologie. Simplement rappeler les faits. Par exemple, il va y avoir un scrutin en Israël. C'est vrai que c'est quand même un scrutin démocratique, puisque même cette proportionnelle folle qui aboutit à un deuxième round, et que ça aboutira peut-être à un troisième round, ben c'est quand même la preuve qu'au départ, les pères fondateurs ont voulu que tout le monde soit représenté sur la scène politique israélienne.
Rappeler les faits, effectivement, c'est une bonne conclusion à notre entretien. Oui. Merci Martine.
Merci.